Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Trois attaques simultanées contre des camps militaires dans le nord du Mali. Nous ferons le point avec notre correspondant. Au Sénégal, arrestation de 43 fidèles d'un influent chef religieux pour trafic d'êtres humains. Les dirigeants dissidents du Tigré sont en fuite, d'après le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden a nommé sa future équipe de communication et ses futurs conseillers économiques, sous réserve de confirmation du Sénat américain. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, des camps des forces militaires étrangères et maliennes ont été attaqués à l'arme lourde dans trois localités du nord ce lundi matin sans faire de victimes. À Menaka, Gao et Kidal, obus et roquettes ont causé des dégâts matériels, notamment dans le camp de la MINUSMA à Kidal. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Des camps des forces françaises Barkhane et Takuba, onusiennes de la MINUSMA et malienne, ont été visés simultanément ce lundi à Menaka, Gao et Kidal au nord du Mali par des tirs d'obus de mortier et des roquettes. Il n'y a eu ni dégâts ni pertes en vies humaines du côté de la force Barkhane selon son état-major. Seul le camp MINUSMA de Kidal a été touché et il y a eu des dizaines d'obus qui n'ont fait aucune victime, mais des dégâts matériels qui sont en cours d'évaluation. Les forces Barkhane stationnées dans le même camp n'ont pas été touchés. Selon une source militaire, les terroristes ont tenté sans succès de mener une action coordonnée contre les camps de Barkhane, des casques bleus de l'ONU et contre la force européenne Takuba, sans oublier l'armée malienne dans les localités de Gao, Menaka et Kidal au nord du pays. Selon un habitant de Menaka, les opérations ont été coordonnées puis menées de 4h à 8h du matin. La situation était sous contrôle dans les trois localités alors que les populations commençaient à reprendre leurs activités quotidiennes. Cette attaque a été revendiquée par les moudjahidines du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Diad Agali, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, le président Roch Marc-Christian Kabore, réélu pour un second mandat, a vu sa victoire confortée par un succès de son parti aux législatives. Monsieur Kabore devra néanmoins composer avec ses alliés pour s'assurer une majorité à l'Assemblée nationale. Selon les résultats provisoires publiés samedi par la CENI, le parti présidentiel, le MPP, a récolté 56 sièges, loin des 64 sièges nécessaires pour la majorité absolue. Arrestation au Sénégal de 43 personnes pour notamment traite d'êtres humains dans des centres d'éducation créés par un influent chef religieux dans la région de Dakar. Selon la gendarmerie, des individus y étaient victimes de séquestration et de maltraitance. Abdourahmane Dia.
Ces arrestations ont eu lieu lors d'opérations menées du 26 au 28 novembre par la gendarmerie dans ces centres tenus par des disciples de Serigne Modou Karambaké. Modou Karambaké est un chef religieux de l'influente confrérie musulmane des Mourides et dirigeant d'un parti politique. Il a mis en place à travers le pays des centres dits de redressement, ciblant notamment des jeunes en perdition. Les enquêtes de la gendarmerie ont permis de démanteler un réseau de vols de scooters, de trafic de chanvre indien et de traite d'êtres humains dans ces centres, toujours selon la gendarmerie. Plus de 370 pensionnaires de ces centres dits de rééducation dans plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue ont été libérés. Les témoignages des victimes font état de plusieurs décès durant ces deux dernières années, dont le dernier remonte à 3 jours. L'enquête se poursuit sous la direction du procureur de la République selon le communiqué. Le service de communication de Serigne Modou Karambaké a démenti ces accusations. La gendarmerie n'a trouvé de la drogue dans aucun des centres qui accueillent plutôt des victimes de la drogue, des jeunes repris de justice et des déficients mentaux, a dit la cellule de com dans un communiqué ce lundi. En raison des résultats satisfaisants dans ces centres, le nombre de pensionnaires a augmenté et causé une promiscuité du cadre de vie dû au manque de moyens, s'est justifié le service de communication de Serigne Modou Karambaké.
au Togo, Brigitte Adjamagbo-Johnson, grande figure de l'opposition, et Gérard Djossou, tous deux membres de la dynamique Monseigneur Pozzro, sont toujours placés en détention. Ils ont été accusés de préparer un plan de déstabilisation des institutions de la République, a indiqué le procureur de la République Essolissam Poyodi. Le Front citoyen Togo Debout, FCTD, qui rassemble de nombreuses organisations de la société civile togolaise, condamne l'instrumentalisation de la justice et demande la libération de ses deux responsables et des détenus politiques. En République démocratique du Congo, les députés du FCC, fidèles à l'ancien président Joseph Kabila, ont dénoncé ce lundi des tentatives de corruption pour changer leur majorité au Parlement. Dans un communiqué, les députés ont affirmé détenir suffisamment de preuves de corruption pour aller en justice. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed affirme que les dirigeants du Tigré sont en fuite et sont poursuivis par l'armée fédérale. C'est moins de 48 heures après sa victoire militaire proclamée dans cette région du nord du pays. Yacouba Ouédraogo.
Pas une seule personne n'a été blessée lors de l'opération à Mekele, a déclaré le premier ministre Abiy Ahmed, affirmant que l'armée a pris le contrôle de Mekele et d'autres villes tigréennes, ce que nie le Front populaire de libération du Tigré. L'ONU a toutefois évoqué de possibles crimes de guerre. Vendredi, l'International Crisis Group a mentionné plusieurs milliers de morts dans les combats. La Croix-Rouge a rapporté dimanche que les hôpitaux de Mekele sont submergés par le flot de blessés. Abiy Ahmed dit poursuivre désormais les leaders du TPLF. « Nous ne les avons pas attaqués de nuit parce qu'ils ont emmené avec eux dans leur retraite leurs épouses, leurs enfants et nos soldats capturés, mais cela ne va pas continuer », a averti le Premier ministre. Les tensions entre le pouvoir fédéral et les autorités du Tigré ont culminé avec l'organisation en septembre au Tigré d'un scrutin qualifié d'illégitime par Addis Abeba. M. Abiy a alors envoyé l'armée dans cette région dissidente le 4 novembre pour, dit-il, remplacer les autorités issues du TPLF par des institutions légitimes.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé aujourd'hui le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à une cessation totale des combats et à permettre un accès humanitaire sans entrave dans la région du Tigré. Au Zimbabwe, les services de secours ont découvert ce lundi un corps après l'effondrement d'une mine d'or désaffectée qui a pris au piège des dizaines de mineurs clandestins lors d'un accident survenu mercredi dernier.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici, aux États-Unis, le président élu Joe Biden poursuit la formation de son administration future. Il a annoncé la composition de son équipe de communication et celle en charge des dossiers économiques. Mohamedou Oumfa fait le point.
L'équipe de communication à la Maison-Blanche sera exclusivement féminine, une première dans l'histoire du pays. Jane Psaki, 41 ans, occupera le poste très en vue d'attaché de presse. Karine Jean-Pierre, qui a travaillé comme analyste politique pour NBC et MSNBC, sera son adjointe. Kate Bedingfield, directrice adjointe de campagne de M. Biden, est nommée directrice de la communication. Joe Biden a confirmé la nomination de Janet Yellen, ex-présidente de la Banque centrale, à la tête du Trésor. Ce sera la première femme à ce poste si elle est confirmée par le Sénat. Wally Adeyemo est nommé secrétaire adjoint du Trésor. D'origine nigériane, s'il est confirmé, il sera le premier Africain-Américain à ce poste. Le président élu a également nommé Nira Tenden, directrice du Bureau de la gestion et du budget. C'est aussi une toute première pour une femme d'origine indienne à ce poste. Parmi les autres nominations, Cecilia Rose doit prendre la tête du Conseil des conseillers économiques du président. Une nomination inédite révèle M. Biden, car elle deviendra la première Africaine-Américaine et la quatrième femme à diriger ce conseil en 74 ans.
Alors que la pandémie de Covid-19 approche les 1,5 million de morts, les restrictions se multiplient dans le monde. Les autorités hongkongaises ont imposé ce lundi de nouvelles restrictions à 7,5 millions d'habitants. Nouveaux tours de vis au Pays de Galles, les cinémas, bowling et autres lieux de divertissement doivent fermer et la vente d'alcool est interdite dans les pubs. En Italie, le gouvernement a approuvé aujourd'hui son quatrième plan pour soutenir l'économie. Le laboratoire américain Moderna va déposer aujourd'hui des demandes d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis et en Europe, faisant de plus en plus miroiter des prochaines vaccinations possibles, peut-être le mois prochain. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
En RDC, l'adjudication des bons du Trésor programmés pour demain mardi 1er décembre 2020 est d'une valeur de 15 milliards de francs congolais, soit environ 7,5 millions de dollars. Selon le ministère des Finances, ces titres financiers d'une échéance de 3 mois sont à souscrire le même jour avant 11 heures auprès de la Banque centrale du Congo. Le gouvernement rappelle que les souscriptions aux bons du Trésor sont ouvertes à toute personne intéressée et non plus seulement aux seules banques commerciales. Nokia a été sélectionné par l'opérateur mobile Togocom dans le cadre d'un accord de 3 ans pour déployer la 5G à travers le Togo. À Lomé, la capitale, le réseau 5G vient d'ailleurs d'être installé, une première en Afrique de l'Ouest. Selon Financial Afrique, l'accord prévoit aussi l'amélioration des réseaux 2G, 3G et 4G existants, ce qui assurera à Togocom la pérennité de son infrastructure pour la prochaine génération de services numériques à destination des citoyens togolais. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se réunissent pour tenter de redonner un peu de vigueur à un marché du brut toujours déprimé. Les membres du cartel pourraient décider de prolonger la réduction de leur production actuelle au-delà du 1er janvier. L'OPEP et d'autres grands producteurs comme la Russie ont convenu cette année à des coupes drastiques dans leur production d'or noir pour tenter de l'adapter à une demande réduite suite à la pandémie de Covid-19.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yakuba Ouédraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. La République démocratique du Congo attendra la deuxième fenêtre en février pour valider son ticket au tournoi final des éliminatoires AfroBasket 2021. En effet, lors de la première phase qualificative clôturée hier, les Léopards se sont offerts 2 victoires en 3 sorties. De Kinshasa, les précisions de Valdo Simo Yamba Yamba.
Une défaite face au champion en titre, la Tunisie, 50-61, contre 2 victoires, d'abord en ouverture, 55-51, sur la République centrafricaine, et une deuxième aux clôtures de cette première fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket, 82-64 sur Madagascar. Il y a de quoi apprécier positivement cette première étape. Rufin Kayembe et les capitaines de la RDC.
Le bilan est vraiment positif parce que c'était l'objectif de gagner des matchs minimum pour pouvoir respirer. Et puis rentrer chez nous, préparer pour la prochaine fenêtre.
Un premier objectif atteint, mais pas suffisant pour la RDC qui devra assurer sa qualification lors de la deuxième fenêtre. La République démocratique du Congo, la République centrafricaine et Madagascar vont se disputer les 2 tickets restants en février 2021. Kinshasa, Valdo Simo Yamba, VOA Afrique.
En football, la nouvelle saison 2020-2021 de la Ligue des champions CAF a commencé le week-end écoulé. Avec le tour préliminaire, bonne opération des Nigériens d'Enyimba qui sont allés battre 1-0 le champion burkinabé Raimo. Les Sénégalais de Teguff ont ramené le nul 1-1 de leur déplacement en Gambie face à l'équipe de l'armée. Même résultat entre le champion du Bénin Buffle du Bourgou et les Algériens du Mouloudia, entre autres. En Coupe CAF, belle performance du Coton Sport de Garoua, vainqueur 2-0 sur le terrain d'Unisport de Togo. Les Sénégalais de Jaraf ont battu 3-1 les Nigériens de Kanopila. Déception par contre pour les Congolais de Maniema Union, battu à domicile 2-0 par les Sud-Africains de Bloemfontein Celtic. Salitas FC du Burkina a arraché le match nul 0-0 sur la pelouse d'Ashanti Gold d'Obuasi du Ghana. Ici aux États-Unis, New England Revolution et Columbus Crew se sont qualifiés pour la finale de la conférence S de la MLS, le championnat nord-américain de football. New England Revolution a été la première à décrocher son billet face à Orlando City, battu 3-1. De son côté, Columbus a mis fin à la belle aventure de Nashville, dont c'est la toute première saison en MLS et qui s'est inclinée 2-0. Columbus et New England se retrouveront le 6 décembre pour la finale de la conférence Est. À l'Ouest, le champion sortant Seattle accueille Dallas demain en demi-finale de conférence. Kansas City recevra les Minnesota Timberwolves mercredi avant une finale de conférence prévue le 7 décembre.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. Place au dossier du jour. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement veut introduire un système électronique pour la perception des impôts et taxes dans le Nord Kivu. Mais la société civile veut aller plus loin dans la sensibilisation sur le terrain et accentuer la pression pour plus de contrôle et surtout plus de sanctions contre les corrompus et corrupteurs dans les services étatiques. Reportage à Goma de notre correspondant Charlie Kasereka.
Canaliser et maximiser les recettes et éviter la corruption, c'est l'objectif que se donne le gouvernement provincial du Nord Kivu en utilisant un nouveau système qui sera bientôt mis en disposition des agences de perception des taxes et impôts. Le logiciel SafeCodonat a été créé par l'entrepreneur qui a signé un partenariat avec le gouvernement provincial, Daoudi Faradja.
Et vous allez comprendre que la banque de données, c'est ça le cœur de la gouvernance électronique. Parce que là maintenant, on aura des données réelles sur lesquelles on peut se baser pour faire une projection budgétaire qui est objective. Les services seront interconnectés et aussi les services d'assiette, là nous parlons des divisions, seront aussi interconnectés avec la DGRNK qui est les régies. Et maintenant vous comprenez que les opérations seront automatiques. Tout le monde va travailler comme si on était dans les mêmes bureaux.
Ces logiciels conçus au Nord Kivu avec comme objectif d'accompagner le gouvernement dans la canalisation des recettes dans les caisses de l'État, les ministres des Finances et Mines de la province se rassurent et promet la maximisation des recettes avec ce nouveau système. Maître David Kamoua, ministre des Mines et Finances au Nord Kivu.
Notre système électronique va nous permettre d'arriver au résultat, c'est-à-dire d'aboutir au moins à plus de 2 millions de dollars le mois. Et le SafeCodonat va nous permettre de mobiliser les recettes, permettre à ce que la perception ne puisse plus être manuelle. Donc nous allons migrer du système manuel vers le système électronique de perception de nos recettes et nous pensons que c'est une évolution significative.
Pour la société civile, même si c'est un début, une forte sensibilisation est à envisager dans tous les autres services publics, par exemple dans les ports et aéroports de la RDC où la corruption serait pratiquée à ciel ouvert. Serge Sivia, coordonnateur du mouvement Congo Nouveau, structure qui sensibilise aujourd'hui sur la lutte contre la corruption dans les services étatiques.
En fait, ce que nous faisons en tant que Congo Nouveau et en tant que Congo n'est pas à vendre le consortium, premièrement, de sensibiliser la population, faire en sorte que les actions de corruption puissent être mises en nu. Le grand problème, c'est celui du contrôle. Mais comme les mécanismes de contrôle qui existent dans notre pays ne font pas leur travail, c'est pour cela que dans le cadre de la société civile, on s'est dit que nous devons mener une pression populaire.
Les Nord Kivu perdent des centaines de milliers de dollars dans les détournements des recettes par des percepteurs véreux. Il n'est pas rare de voir des percepteurs recevoir de l'argent liquide auprès des contribuables. Désormais, le gouvernement provincial veut éradiquer cette pratique et passer à l'électronique d'ici le 15 décembre. Charlie Kasereka, Goma pour VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
À quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le discours politique change de ton en Centrafrique. L'opposition et le pouvoir s'accusent mutuellement de multiplier les messages de haine. Les leaders religieux, eux, appellent à l'apaisement. À Bangui, le reportage de Freeman Sipila.
La tension bien visible entre les leaders de l'opposition et le pouvoir présage le climat politique pendant la campagne électorale. Mardi, lors d'un meeting interdit puis autorisé quelques heures plus tard, l'opposition a éclaboussé le président Touadéra, candidat à sa propre succession. Nicolas Tsangai, porte-parole de la coalition de l'opposition.
Le président Touadéra n'a rien fait en termes de gouvernance, en termes de sécurisation du pays parce que quand il avait pris le pouvoir, le pays était occupé à 50% par les groupes armés. Aujourd'hui, c'est 85% du territoire qui sont occupés par les groupes armés. Ensuite, il y a un problème de sécurisation du processus électoral parce que nous ne pouvons pas aller faire les élections dans des conditions apaisées, étant donné que ce sont les groupes armés qui sont des alliés de Touadéra qui empêchent les opposants de circuler librement dans le pays.
La réplique a été automatique. Les partisans du pouvoir multiplient les attaques contre l'opposition dans certains médias et réseaux sociaux. L'ancien président François Bozizé, candidat déclaré à la présidentielle du 27 décembre, se dit plusieurs fois victime des provocations du pouvoir.
Cette manière de faire risquerait de compromettre le bon déroulement des élections. Il y a une semaine, certains officiers généraux bien placés ont fait des déclarations, je crois bien c'est au camp Kassai, parlant de ma personne, je ne sais pourquoi, mais c'est ce qui m'a été rapporté. Et cette communication a été connue de tout le monde. Cela aboutira à quoi? Mais toujours est-il que les ordres qui leur auraient été donnés, c'est d'abattre Bozizé avant les élections.
Accusations, injures et provocations, tout concourt à nourrir la haine et la division. L'imam Koubine Layama, président du Conseil supérieur islamique de Centrafrique, appelle à la retenue.
Le processus électoral en cours, je ne vis que des inquiétudes à cause de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, vraiment ça m'écœure. Je ne pense pas que c'est de cette manière que nous, Centrafricains, nous devons nous parler.
Le peuple centrafricain a tant souffert, il est temps de tourner la page, déclare l'archevêque de Bangui, cardinal Dieudonné Zapalainga.
C'est pas la guerre des personnes, la guerre de communauté, la guerre de groupe. Parfois, nous sommes désolés de voir que ces messages de haine ou de vengeance que nous entendons de part et d'autre, de jusqu'au boutiste, ça ne nous réjouit pas. Moi, en tant que leader religieux, j'en appelle à un sursaut patriotique, à une prise de conscience pour pouvoir arrêter ces messages de haine, de plutôt regarder ce pays qui a beaucoup souffert et qui souffre. Et nous avons besoin d'un relèvement.
Ces messages de haine venant des hommes politiques inquiètent les centrafricains qui imaginent déjà l'ambiance de la campagne électorale qui s'ouvre le 12 décembre. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Libérer la parole au niveau des femmes est un combat dans lequel s'est engagée la néo-écrivaine Selom Mensah. Imposer le silence est une forme de violence faite aux femmes. En prélude des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'auteur vient de publier son premier ouvrage. Il s'agit de « Paroles aux femmes », un recueil de poèmes. Allumé, la correspondance de Kay Lawson.
L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté d'expression. Mais dans beaucoup de milieux au Togo, les femmes expriment difficilement ce qu'elles ressentent. Donner l'opportunité aux femmes de parler de leurs ressentis relève donc du tabou. Selom Mensah vient casser les codes en publiant une balade poétique titrée Parole aux femmes.
J'ai eu la chance de rencontrer des femmes inspirantes au cœur brisé. Je les incite à s'exprimer parce que tout simplement, quand une femme s'exprime, c'est qu'elle est en meilleure interaction avec la société. Et dans le recueil, je l'ai très bien dit, il y a des femmes qui vivent des choses très douloureuses. Que ce soit les femmes qui sont battues, que ce soit les femmes qui sont dans le processus de la perte d'un enfant. C'est vrai que je ne me sentais pas forcément légitime de sortir ce recueil de poésie. Mais j'ai estimé au final que tout un chacun a le droit de s'exprimer, a des choses à dire et mérite d'être entendue tout simplement.
Pour Adeline, cette amoureuse de la littérature, l'œuvre Parole aux femmes est un bel engagement.
C'est extrêmement important pour les femmes de pouvoir s'exprimer librement parce qu'elles n'ont pas souvent l'occasion d'exprimer leurs ressentis. Et Parole aux femmes, c'est justement l'occasion de pouvoir faire vivre à tout le monde les sentiments que ces femmes ont.
La divorcée assume, rien à foutre. Elle est bien mieux sans un homme. Les railleries, elle passe outre. À présent, la vie, elle la croque comme une pomme.
L'écrivain Steve Bojona a parcouru les 26 poèmes de ce recueil qui est une compilation de témoignages. Il a été le plus émerveillé par le poème « La divorcée ».
Très souvent, lorsque on a ces femmes qui vivent le divorce, il y a la société qui est toujours derrière pour en quelque sorte la critiquer. sans forcément savoir si elle en est la cause ou si elle est victime, si elle vit en fait un bonheur dans son divorce que le malheur. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment un message assez fort, assez poignant vis-à-vis de ceux-là qui pensent que d'ailleurs des fois, quelles que soient les difficultés, il faut toujours maintenir son couple, alors que parfois on sait que cela pourra d'ailleurs virer au drame.
Le musellement de la femme dans la société est une forme de violence, affirme sans ambiguïté Cheka Malou, président de l'association On est ensemble.
Empêcher les femmes de parler, c'est une forme de violence, clairement. La liberté d'expression, c'est un droit qui est normalement concédé à tous les êtres humains, donc hommes et femmes. Dans nos sociétés africaines et particulièrement dans la société togolaise, nous faisons beaucoup la promotion du silence. Et les femmes encore plus. On est éduqués en se disant qu'on ne doit pas dire tout. Pourtant, je pense que c'est important de pouvoir mettre des mots sur nos mots. Et donc, voilà, les femmes, ce sont des êtres humains, elles ont le droit à la parole.
Pour un dernier vers, une petite recommandation de l'écrivain Steve Bodjona.
Là, on dit parole aux femmes, mais c'est un livre également que beaucoup d'hommes devraient lire.
Kailoson, Lomé, VOA.
Fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josèle Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges Léonard Sagno. Au micro, Clermora Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les images d'hommes, de femmes et d'enfants morts ou blessés à Douma en Syrie, après que le régime d'Assad, appuyé par l'Iran et la Russie, a tiré en 2015 des volées de missiles sur le marché grouillant de monde de cette ville, sont déchirantes. 70 civils ont été tués et 500 autres blessés dans cette attaque du 30 octobre. Il constitue un tragique rappel du coup de la guerre de Bachar al-Assad contre le peuple syrien qui a fait plus de 500 000 victimes au cours des 9 dernières années et demie. En mémoire des victimes de Douma et d'autres atrocités commises par le régime d'Assad, le département d'État américain et le département du Trésor ont pris des sanctions contre 19 individus et entités sous la loi CSAR, Syria Civilian Protections, de 2019 et d'autres lois. Le Bureau de contrôle des actifs étrangers du département du Trésor a pris des mesures contre des responsables de l'armée syrienne, des membres du Parlement syrien, des entités gouvernementales syriennes et des ressortissants syriens et libanais qui tentent de relancer l'industrie pétrolière d'Assad, ainsi que le secrétaire d'État Mike Pompeo l'a noté dans une déclaration. Les sanctions de l'administration illustrent la profonde manière dont le régime Assad a corrompu les institutions syriennes. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a lui aussi souligné que le département du Trésor est déterminé à appliquer la pression économique sur le régime Assad et ses partisans pour la répression menée par le régime. Alors que ceux faisant des affaires avec les 19 individus ou entités désignées s'exposent eux-mêmes au risque de subir des sanctions, le secrétaire d'État, Pompeo, a clairement dit que les sanctions ne visent pas le commerce de bonne foi lié à l'aide, l'assistance ou l'activité humanitaire et que le gouvernement des États-Unis continuera à fournir de l'aide humanitaire au peuple syrien. Les États-Unis, a dit le secrétaire d'État Pompeo, sont engagés à répondre à la demande du peuple syrien d'une solution politique durable au conflit conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU. À cette fin, nous soutenons l'appel de l'émissaire spécial de l'ONU, Geir Pedersen, pour un cessez-le-feu national en Syrie, la libération des détenus et prisonniers politiques, l'élaboration d'une nouvelle constitution, de même que l'organisation sous l'égide de l'ONU d'élections libres et équitables. Le régime d'Assad a un choix, a dit le secrétaire d'État Pompeo, prendre des mesures irréversibles vers une solution pacifique de ce conflit qui perdure depuis près d'une décennie ou faire face à d'autres sanctions paralysantes.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.